journal du midi. Jean-Mélène Biti.
12 heures partout en Côte d'Ivoire et à Ebimpe, au menu de ce bulletin. Budget de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire porté à 650 milliards de nos francs pour Dr Germain Cramaux, enseignant en économie. Avec cet investissement, le pays y gagne à tous les coups en termes de retombées diverses. À Bouna, après le double meurtre orchestré récemment, le commissaire de police de Bouna rassure les populations encore sous le choc. Kwasi Maxime, vous l'entendrez dans ce bulletin. Et puis hors de nos frontières, en Sierra Leone, la justice a autorisé ce mercredi l'ex-président Ernest Bai Koroma à se rendre à l'étranger pour se soigner après son inculpation pour son rôle dans une tentative présumée de coup d'État en novembre dernier. En toute fin d'édition, nous aurons comme l'invité de la rédaction Cyril Kofi, concepteur de l'application mobile santé CIV, une solution complète et gratuite qui connecte les patients au centre de santé. Voici pour l'essentiel. D'euros, soit 650 milliards de nos francs, c'est la somme qu'auraient dépensé les autorités ivoiriennes pour l'organisation de la CAN 2023 selon un média international. Pour un enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, le jugement que l'on pourrait porter sur cette somme importe peu, car soutient-il, le pays y gagne à tous les coups en termes de retombées diverses. On écoute Dr Germain Cramaux.
Pour l'organisation de cette CAN, la Côte d'Ivoire a beaucoup investi et il y a plusieurs retombées. D'abord, au niveau politique, l'organisation de la CAN est un vecteur de communication. Ça contribue à améliorer l'image du pays à l'extérieur et ça contribue à attirer des touristes, des gens qui vont tenter de venir visiter ce pays. Et aussi, certains investisseurs vont aussi tenter de venir investir en Côte d'Ivoire. Donc déjà à ce niveau, la CAN peut contribuer à attirer des investisseurs. Et en termes de vecteur de développement, il y a plusieurs infrastructures qui ont été construites durant cette CAN, ou bien la rénovation même de certaines infrastructures. Si nous prenons par exemple les terrains des lycées et collèges, des villes dans lesquelles se déroule la CAN, il y a plusieurs qui ont été renouvelées. Donc ça aussi sont des retombées qu'il faut souligner. Ensuite, il y a le développement du réseau routier. Nous avons vu l'accélération pour l'ouverture de la Y4. Donc cette Y4 qui va contribuer même à la fin de la CAN à fluidifier le transport à Abidjan. Et puis, il y a les autres aspects économiques. Parce que lorsqu'on construit un stade, on a besoin d'employés. Donc, si nous prenons par exemple le cas de San Pedro, ce sont des emplois qui ont été créés, donc des revenus sont versés à ces personnes. Ensuite, pour les villages CAN aussi qui sont construits, donc vous voyez plus ou moins l'organisation de cette CAN a contribué à la création d'emplois pour certaines personnes qui ont permis d'avoir un certain revenu. Donc, voici plus ou moins des retombées de cette CAN sur l'économie.
C'était à l'instant l'enseignant en économie à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Dr Germain Cramaux. Le président de la commission électorale indépendante CEI se dit fier du cycle électoral qui a démarré depuis 2019 et qui vient de s'achever avec l'élection sénatoriale de septembre 2023. Pour lui, ces résultats ont été obtenus grâce au travail acharné de la CEI, mais aussi et surtout grâce à l'environnement politique et social apaisé et à la maturité des acteurs politiques. C'était à l'occasion de la cérémonie de vœux de nouvel an du personnel de l'institution électorale à son président, Koulibaly Kubiet Ibrahim.
La commission électorale indépendante a organisé au cours de ce cycle électoral deux opérations de révision de la liste électorale, des élections du président de la République, des députés, des conseillers régionaux et des conseillers municipaux, des sénateurs et plusieurs élections partielles. Certes, des améliorations sont apportées. Nous ferons des propositions au gouvernement et nous prendrons les mesures correctives en ce qui nous concerne. Nous pouvons dire toutefois que le bilan est positif. Nous restons convaincus que la violence ne devrait avoir nulle place dans les élections. C'est pourquoi nous avons engagé plusieurs procès contre les casseurs. Il y a eu des condamnations à la prison ferme et des condamnations avec sursis. Plus rien ne sera comme avant. Nous avons fait le pari de traquer tous ces gens qui font entrave à la marche de la démocratie dans notre patrie. Qu'ils soient agents de la commission électorale indépendante, politiciens, électeurs ou simples citoyens. Plusieurs de nos agents indélicats ont été durement sanctionnés. Et plusieurs commissaires dont les faits et comportements ont été préjudiciables à la crédibilité de la commission électorale indépendante ne siégeront plus dans les commissions locales pour bientôt. Pour les échéances électorales futures, nous formons le vœu que les Ivoiriens s'approprient la matière électorale en l'incrustant dans leurs mœurs. Alors pour 2024, je soumettrai à la commission centrale le chronogramme de la révision de la liste électorale et celui de l'élection présidentielle à venir.
Koulibaly Thubiat Ibrahim, président de la commission électorale indépendante, CEI. On prend la direction du Bounkani à Bouna où les populations ont été secouées par un double meurtre, celui d'un sexagénaire féticheur retrouvé mort le 8 janvier et le corps en putréfaction avancé. Le 10 janvier 2024, une dame de 67 ans, une parente de ce féticheur, a été agressée et décédée suite à des blessures. La police nationale a procédé à l'arrestation du présumé auteur du double meurtre pour une enquête. Le commissaire de police de Bouna rassure les populations encore sous le choc. Kwasi Maxime, les propos recueillis par Jérôme Kwasi, notre correspondant dans le Bounkani.
Tant qu'un procès n'est pas venu condamner le mis en cause, il bénéficie toujours de la présomption d'innocence. Effectivement, il y a eu deux assassinats qui ont été perpétrés et qui a troublé la quiétude des populations. Dieu merci, nous avons pu interpeller le mis en cause. La procédure a été faite, il a été déféré au parquet de Bouna. Une information a été ouverte, donc l'affaire est en instruction. Tout ce que je pouvais dire, c'est de rassurer véritablement les populations. Parce qu'on avait pensé à un serial killer, un tueur en série. Et bien évidemment, c'est quelqu'un qui est connu, qui vivait dans l'environnement dans lequel il a perpétré ses actes odieux. Avec la collaboration, comme on le dit toujours, de certaines personnes, on a pu heureusement l'interpeller. Donc pour l'heure, il s'agit du nommé Koulibaly Abdraman. Il a 25 ans, c'était un coiffeur. Il était résident au quartier Carreau du Lasso.
C'était à l'instant le commissaire de police de Bouna, Kwasi Maxime, suite au double meurtre perpétré le 8 et le 10 janvier 2024 à Bouna. De Bouna, rendons-nous dans la région du Gbeke, précisément à Diabo, où l'équipe municipale soucieuse de l'amélioration des conditions de santé des populations et de travail du personnel soignant vient de doter le centre de santé d'un préau pour la vaccination. Cette infrastructure a été inaugurée le week-end dernier, nous dit Joseph Assalé, notre correspondant régional.
Nos mamans, c'est-à-dire les nourrices et les nourrissons, sont au soleil. Il était nécessaire de mettre ce préau-là à la disposition des nourrices et des nourrissons.
Chose promise, chose due. Le maire de Diabo, Marcel Dieto, vient de doter le centre de santé de sa ville d'un préau dont l'importance est relevée ici par le médecin-chef Dr Ayemou Kofi.
Ce préau nous permettra d'atteindre nos objectifs de vaccination dans le cadre du programme élargi de vaccination, dont la cible concerne les femmes enceintes, les enfants de 0 à 22 mois et les filles de 9 ans. Ce programme de vaccination que vous nous offrez aujourd'hui contribuera à attirer plus les mères à faire vacciner leurs enfants.
Au nom de l'administration centrale, le sous-préfet de Diabo a exprimé sa gratitude à l'équipe municipale qui n'a de cesse de contribuer à l'amélioration des conditions sanitaires des administrés. Sage Yolande Toapé.
Tout habitant de Diabo a pu constater les changements survenus dans notre centre de santé ces derniers mois à travers la réalisation de projets. Certains sont achevés, notamment le laboratoire d'analyse médicale, et d'autres sont en cours de réalisation. Aujourd'hui, nous inaugurons le préau de vaccination. Tous ces ouvrages concourent à l'amélioration des prestations de notre centre de santé. Je voudrais dire merci à monsieur le maire et à son équipe.
Le préau réalisé dans l'enceinte du centre de santé de Diabo a coûté 12 millions de francs. Joseph Assalé, Diabo, Radio de la Paix.
Hors de nos frontières, la haute cour de la Sierra Leone a accordé ce mercredi la liberté sous caution de l'ancien président Ernest Bai Koroma pour qu'il puisse suivre un traitement médical à l'étranger, a dit à la presse maître Joseph Filgiral Camara, sans préciser la date de son départ. Koroma, 70 ans, ayant dirigé le pays de 2007 à 2018, se rendra au Nigeria pour y recevoir un traitement médical, a écrit la haute cour dans un message publié sur X. Il a été inculpé début janvier de 4 infractions, dont trahison et dissimulation de trahison. L'ancien président devait comparaître hier mercredi, mais le procès a été ajourné au 6 mars, a dit son avocat. Et puis en sport football, Cannes 2023, la deuxième journée de la poule A, Côte d'Ivoire-Nigeria, un derby ouest-africain à suivre ce jeudi 18 janvier à partir de 17h au stade Alassane Ouattara d'Ebinpe. Le Nigeria qui compte un point a besoin d'une victoire pour se relancer pendant que la Côte d'Ivoire doit atteindre le second tour en cas de victoire. En conférence de presse d'avant-match hier, le sélectionneur ivoirien a affirmé que son équipe va imposer un jeu intense au Nigeria. Il a aussi donné les nouvelles de Sébastien Haller, Simon Adingra et Sekou Fofana. Jean-Luc Gasset, que nous écoutons.
Nous avions 7 joueurs qui débutaient le match, qui faisaient leur premier match de Cannes. Et on était quand même dans l'émotion devant tout ce public et le parterre qu'il y avait dans les tribunes. On n'a pas tout bien fait, mais on a pris 3 points. C'est vrai que sur le papier, le Nigeria a peut-être le plus de talent dans son effectif, avec bien sûr Osimhen, le monsieur plus de cette équipe. Nous, on a un collectif qui doit monter son niveau de jeu par rapport à notre premier match. On est au courant des individualités. On a essayé de travailler comme il faut et on va proposer un match intense au Nigeria. Sébastien et Simon ont repris l'entraînement. Leur blessure est en bonne voie, on dira. Ils ont rechaussé les crampons, ils ont touché le ballon, ils ont travaillé avec nous. Nous sommes dans les temps de ceux que nous avions prévus pour qu'ils puissent participer à la compétition et être dans les délais. Je savais que ces cours amèneraient au groupe. Il a l'état d'esprit, mais surtout il a le désir de faire quelque chose de grand. Mais il a la particularité de marquer des buts décisifs. Et ça, j'aimerais qu'il continue à le faire.
Nous écoutions à l'instant le sélectionneur ivoirien Jean-Louis Gasset. Restons toujours dans la même information. À quelques heures de la rencontre à Côte d'Ivoire-Nigeria, notre correspondant sur place à Daoukro, chef-lieu de la région de Lifou, a recueilli des réactions d'avant-match des supporters des éléphants.
C'est M. Nguessan Clément. Connaissant nos attaquants jeunes, efficaces, je pense qu'on aura notre mot à dire. Et moi, je n'ai aucune crainte face au Nigeria. L'équipe que j'ai vue prester la dernière fois.
Je suis Rabelais Kouakou. La première prestation des Ivoiriens a laissé à désirer parce que, à part le milieu qui s'est bien comporté, ni la défense ni l'attaque ne portent des lieux d'espoir intrinsèquement pris. Notre équipe nationale vraiment laisse encore beaucoup de doutes parce que le Nigeria, même quand le lion a maigri, ne devient pas chat. C'est une affiche de finale de Cannes. Il faut avoir beaucoup peur de cette équipe du Nigeria qui peut réagir, surtout que la première sortie du Nigeria a été une sortie de route. Ils vont vouloir bien aussi et aussi se rattraper.
Je suis Serge Ahmed Tanou. Ça sera un match très, 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 très engagé. La dernière fois, on a vu le jeu, mais qui sait, peut-être qu'ils ont caché réellement le jeu.
Moi, c'est M. Irie Biyoja. C'est vrai qu'on a flashé un peu pour ce premier match, mais vous allez voir que dans ce deuxième match, les enfants vont atteindre la vitesse de croisière et les choses vont aller vraiment de l'avant.
Edgar Yeboué, correspondant de Fatete Matin dans l'IFU. La grande crainte, c'est, à mon avis, au niveau même du public. Cette pression négative du public, parce que déjà, il y a des confrères qui ont relevé que lors du match contre la Guinée-Bissau, le public n'a pas joué son rôle, le public n'a pas soutenu. Déjà, après le match, on a commencé à avoir des commentaires par-ci, par-là. Aujourd'hui, il faut faire abstraction de tout ce qui s'est passé avant.
À l'instant, la réaction de quelques supporters interrogés depuis la ville de Daoukro par notre correspondant régional François Kra. Il faut aussi noter que les matchs sont à vivre en direct sur Radio de la Paix. L'invité de la rédaction de ce jour est Cyril Kofi, gérant de la société de gestion et de concept en informatique SGCI, concepteur de l'application mobile Santé CIV, qui est une solution complète et gratuite qui connecte les patients au centre de santé, offrant ainsi une gamme étendue de fonctionnalités pour une expérience de soins personnalisés. Avec l'appui et le soutien du ministère de la Santé, le lancement officiel de cette application a eu lieu le jeudi 11 janvier 2023 dernier à Abidjan Plateau. Les raisons de la création de cette solution mobile avec Cyril Kofi, invité de la rédaction, qui répond aux questions de Paul Bénédicte Bolou.
Cyril Kofi, bonjour. Santé CIV, qu'est-ce que c'est ?
Santé CIV permet de faciliter la prise en charge des patients avant leur venue dans des centres de santé, en leur permettant d'avoir des informations de base sur le patient, de leur donner un identifiant unique, de permettre à ceux qui puissent faciliter la prise de rendez-vous, d'avoir la liste des actes de santé et des prestations de santé avec les coûts dans les centres de santé, et puis, pour finir, de faire également du téléconseil ou de la télémédecine.
Comment les populations peuvent accéder à cette application?
Déjà, pour accéder à cette application, il faut la télécharger. Donc, elle est disponible dans les différents stores. Vous tapez Santé CIV. Ça vous permet de pouvoir télécharger l'application gratuitement, d'ouvrir votre dossier gratuitement et de vous permettre d'avoir un identifiant unique qui facilite votre prise en charge, quel que soit le centre de santé et que vous suivez partout.
Alors, comment se fera la protection des données des patients face à la cybersécurité?
L'avantage, c'est que nous sommes une entreprise de services numériques avec une forte propension à prendre en charge les aspects liés à la digitalisation, à la cybersécurité, sécurité. assurés. Donc nous nous sommes déjà techniquement assurés de ce que nous respectons les exigences en matière de sécurité, mais plus loin, mais que nous dotions de cette application de tous les mécanismes techniques et organisationnels pour faciliter la prise en charge et la sécurité des données qui y sont stockées. Et pour finir, sur cet aspect, nous nous sommes conformés à la régulation nationale auprès de la RTCI pour ce qui est de la gestion des données à caractère personnel pour laquelle cette application est conforme.
Le carnet médical numérique sous forme de bracelet ou de carte, vous en avez parlé, dites-nous, comment ça marche?
L'idée des cartes et des bracelets devait permettre en fait de remplacer les carnets de santé. Donc en fait, en gros, l'idée c'était de digitaliser les carnets de santé. Pour nous, on ne pouvait pas le faire sans nous appuyer sur également les dernières technologies en la matière, ce qui fait qu'on a introduit ces dispositifs-là. Et pour s'en doter, on a deux possibilités. La première, c'est dans le réseau d'hôpitaux connectés au système, donc c'est toutes les structures de santé aujourd'hui sur le Grand Abidjan et dans des grandes régions de l'intérieur du pays. Donc des dispositifs sont mis en place pour que le patient ou la population qui en a besoin puisse s'y retrouver et pouvoir se procurer cette carte ou ces bracelets-là. Et au-delà, la deuxième possibilité, c'est dans nos réseaux de distribution qui permettront de mettre à disposition ces cartes-là.
Parlez-nous des avantages de santé CIV pour les patients et la population.
Ce que gagne en avantage la population, c'est déjà la facilité de prise en charge. Par le passé, lorsque vous vous déplacez d'un centre de santé à un autre, il fallait qu'on vous crée un nouveau dossier. Donc votre passif, votre historique médical n'était pas pris en charge et votre dossier ne vous suit pas partout. Donc le premier avantage qu'on donne, c'est d'avoir un identifiant unique qui vous permet, quel que soit le centre de santé connecté au système, de retrouver votre historique de santé et donc votre dossier patient qui vous suit partout, mais en toute sécurité. Donc ça, c'est le premier avantage. Le second avantage, c'est la gestion des rendez-vous. Au niveau des centres de santé, il était difficile de pouvoir prendre et suivre ces rendez-vous-là. Pour le patient aujourd'hui, il n'a pas besoin de se déplacer d'emblée vers un hôpital pour une prise de rendez-vous. Il peut le faire à distance. Depuis l'application mobile, prend son rendez-vous est validé, il a la notification, il se déplace pas vers le centre de santé et il se fait prendre en charge. Donc la prise de rendez-vous est beaucoup plus facile et son suivi également. Et puis l'autre chose, c'est le paiement électronique des actes de santé, donc l'affichage des actes. Il était difficile de savoir lorsque vous partez à l'hôpital combien coûte ne serait-ce qu'une consultation et de savoir quel acte est gratuit et quel acte ne l'est pas. Et c'était pas affiché. Donc dans l'application, vous avez la liste de tous les actes gratuits, la liste de tous les actes réduits et le coût des actes classiques qui se retrouvent également disponibles par centre de santé. Donc quand vous vous déplacez, vous savez d'emblée combien vous allez payer. Et mieux, vous pouvez payer même à distance avant même de vous présenter dans ce centre de santé-là. Et bien évidemment, j'ai envie de parler du dossier sécurisé du patient, mais c'est tout le corollaire du suivi du patient en lui-même qui est maintenu dans une sécurité également de ses données.
Et concernant les avantages pour les centres de santé, que savoir?
Pour les structures de santé, c'est vraiment l'avantage en gestion. L'un des gros problèmes qu'on avait dans les centres de santé qui ont fondé le projet même en lui-même, c'était la collecte des flux financiers. Parce qu'en fait, un centre de santé qui arrive à sécuriser sa collecte de flux, ça lui donne un avantage en investissement et en aménagement, en maintien même de son hôpital. Lors de la séance, les directeurs d'hôpitaux eux-mêmes qui ont présenté leurs actifs en termes de chiffre d'affaires réalisés qui sont passés au simple, au double, au triple et qui a vu même des collaborateurs qui avaient des primes de 20 000 francs l'année qui reçoivent aujourd'hui des primes de plus de 100 000 francs. Donc ça, déjà, il est financier pour le centre de santé. Ensuite, il garantit la sécurité et la sérénité des prestations elles-mêmes. C'est qu'aujourd'hui, le centre de santé ne va pas dire que la prestation fait 2 000 francs pour qu'un usager ou un agent de ce centre-là vienne facturer 5 000 francs à la population. On ne viendra pas prendre 5 000 francs là où l'acte est gratuit. Donc ça, c'est une transparence dans la gestion également et dans le suivi également de tout le parcours du patient. Donc pour le centre de santé, on gagne en sécurité dans la gestion, mais on gagne aussi dans une facilité de suivi de ses activités.
Cyril Kofi, merci infiniment.
C'est moi qui vous remercie.
Cyril Kofi, inventeur de la solution mobile de santé, était l'invité de la rédaction de ce 12h. Il répondait aux questions de Paul Bénédicte Bolou. Voici qui m'a fin à ce 12h, mais avant le rappel des titres. Budget de l'organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire porté à 650 milliards de nos francs pour Dr Germain Cramo, enseignant en économie. Avec cet investissement, le pays y gagne à tous les coups en termes de retombées diverses. À Bouna, après le double meurtre orchestré récemment, le commissaire de police de Bouna rassure les populations encore sous le choc. Kwasi Maxime, vous l'avez entendu dans ce bulletin. Et puis hors de nos frontières, en Sierra Leone, la justice a autorisé hier mercredi l'ex-président Ernest Baïkoroma à se rendre à l'étranger pour se faire soigner après son inculpation dans son rôle, dans un rôle de tentative présumée de coup d'État en novembre dernier. Merci de nous avoir suivis. Dans un court instant, la revue de la presse ivoirienne ce jeudi 18 janvier 2024 avec Francis Cassi.
Bonjour à tous. Nous ouvrons notre examen de vos journaux de ce jeudi par la billetterie.